glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Alors mes bien-aimés, nous allons ce matin regarder, il y a quelque temps, j'avais pris un moment de partager avec vous autour de cette parole où Jésus s'adresse à cette femme de Samarie, lui expliquant que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ceux que le Père demande. Alors, nous avons vu quelques critères déterminant le fait que nous soyons devenus de vrais adorateurs. Et en même temps que nous sommes devenus des vrais adorateurs, dans l'Apocalypse, notre Seigneur Jésus-Christ, au chapitre 1er, va expliquer, ou plutôt l'apôtre Jean plutôt va expliquer, en regardant à Jésus, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et béni soit Dieu, dernièrement nous avons vu quelques critères définissant le fait que nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu, plutôt de ce que Jésus-Christ a fait de nous, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, il est le souverain sacrificateur des biens à venir, il nourrit notre espérance, il est le souverain sacrificateur de notre foi, et c'est en même temps lui qui nous a introduit, le souverain sacrificateur Jésus, nous a introduit dans la sacrificature spirituelle pour Dieu le Père. Et ce matin, nous sommes là, autant comme rachetés, que comme croyant sacrificateur, comme enfant de Dieu, avec la préoccupation de ce moment particulier que Dieu nous donne à être rassemblés pour lui rendre le culte. Alors, nous allons faire une lecture, mes bien-aimés, dans ce cadre-là, dans un texte que nous connaissons pour la plupart, c'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 28 et 29. Hébreux 12, verset 28. Les Hébreux, vous le savez, c'était des Juifs. La plupart, c'était des Juifs, mais nouvellement convertis à Jésus-Christ. J'aime pas trop ce mot christianisme. Non, nouvellement convertis à Jésus-Christ. Mais ils avaient besoin que dans cette nouvelle alliance dans laquelle ils avaient été introduits, suite à leur repentance, à leur conversion, aussi à la nouvelle naissance, ce qui est essentiel pour pouvoir eh bien, devenir un enfant du Père, un vrai adorateur, d'être mis au clair quant au fonctionnement des choses qui étaient tout à fait différentes de ce qu'ils pratiquaient dans l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, dans ce que nous lisons, va en même temps dans ce cadre-là, même dans les premiers écrits, il est dit d'eux qu'ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs dans le ciel. Dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs en Christ, est-ce que si vous avez expérimenté la grâce de Dieu et le salut en Jésus-Christ, si vous êtes devenus de nouvelles créatures, avez-vous accepté avec joie qu'on vous enlève vos biens? Non. Mais vous pouvez me dire non. Parce que c'est pas quelque chose qui est réjouissant. Vous avez construit une vie la mieux possible, vous avez eh bien construit une maison, vous avez quelques biens, et une fois que vous êtes converti à Jésus-Christ, ces biens vous sont enlevés. Mais le Saint-Esprit dit qu'ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des choses plus glorieuses dans le ciel qui les attendaient. Eh bien, c'est dans ce cadre-là, pour situer un petit peu, quelle était l'opposition. Eh bien, que le Saint-Esprit, dans ce que nous lisons, va amener des choses qui sont importantes pour eux. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu, quoi ? Un culte. Un culte qui lui soit, dites avec moi, agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Et vous savez que dans la loi, les choses étaient établies, certes, mais vous comprenez que dans le fonctionnement de la loi, l'Écriture nous rappelle que la loi n'a rien amené à la perfection. En effet, la loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a été promulguée, Moïse en était le responsable. La loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en évidence la puissance du péché et l'incapacité du transgresseur de produire quelque chose comme venant de lui pour satisfaire Dieu. Mais quand la grâce a été promulguée, Dieu disait, entrevoyant ce qu'il allait faire, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Donc la loi disait « Fais et tu arriveras à une certaine justice. » Mais sous la grâce, Dieu dit « C'est moi qui ferai et je placerai sous ma grâce » ou dans ma grâce, ceux qui accepteraient ce que j'ai fait pour eux en Jésus-Christ. Et nous sommes de ceux-là ce matin, mes bien-aimés. Ce n'est pas avec l'énergie de notre chair, ni par une compétence quelconque, ni une capacité qui serait nôtre, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous le sommes devenus sur la base de ce que Dieu a fait, a préparé, mais de ce que Jésus-Christ a réalisé à la croix du calvaire, dont le Saint-Esprit maintenant amène la révélation qui nous a mené à cette conviction de péché, à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance et à notre engagement dans les eaux du baptême pour être placés sur le chemin de la persévérance. Donc ce matin, mes bien-aimés, nous remplissons les critères nécessaires qui définissent que nous sommes devenus, que Dieu a fait de nous de vrais adorateurs, que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais pour rendre le culte agréable à Dieu, j'ai besoin quand même de connaître certains aspects particuliers qui feront que quand je viens rendre le culte à Dieu, je ne viens pas simplement à une réunion en plus, mais je viens non seulement avec dans le cœur de bonnes dispositions, mais je viens aussi en ayant pris soin de remplir les conditions nécessaires, essentielles et suffisantes qui feront que le culte que je viens rendre à mon Père, à mon Dieu, sera un culte agréable. Non pas agréable pour moi. Le culte n'est pas agréable pour moi. Le culte doit être agréable pour Dieu. Et j'ai noté 4 points particuliers qui feront que le culte ce matin, que je suis venu rendre à mon Dieu, sera agréable. Nous avons lu dans le texte qui nous concerne, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et il y a 2 critères qui sont mentionnés avec piété et crainte. Bon, la piété, nous le savons, j'en ai déjà parlé avec vous plusieurs fois. Comment pourrions-nous définir la piété, entre autres? Eh bien, nous pourrions définir la piété dans le sens biblique comme étant, aidez-moi, la connaissance des choses d'en haut, qui par le Saint-Esprit va produire en moi du dévouement, de la dévotion pour la pratique. Ça vous convient? Ah oui, puisque l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, nous dit ceci. Si véritablement vous êtes né de Dieu, dites la suite, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. La raison, car vous êtes mort et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Mais quand Christ dans votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, ta vie est cachée avec Christ en Dieu? Oui, Dieu, lorsqu'il nous a amenés à la repentance, nous a littéralement pris et nous a inclus en Jésus-Christ, autant dans sa mort expiatoire, mais aussi dans sa résurrection glorieuse. Nous incluant avec lui dans sa mort, ça veut dire qu'il fait un travail pour détruire en nous autant la puissance du péché, mais aussi ses conséquences. Et lorsque Christ est ressuscité des morts, un peu l'image du baptême. C'est pour que nous puissions marcher en lui, en nouveauté de vie. Donc ça veut dire que dans la réalité divine, Dieu, il a tout préparé, il a tout réglé. Et désormais ce matin, nous sommes là pour jouir littéralement de tout ce qui découle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Or, il a vu quelquefois, frères et sœurs en Christ, que nous, comme enfants de Dieu, n'avons pas la connaissance nécessaire. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions nous raconter l'histoire. Tous n'ont pas le même niveau spirituel. Tous n'ont pas le même degré de connaissance. Tous n'ont pas le même degré de foi. Mais le travail du pasteur dans l'Église, c'est que quel que soit le niveau de connaissance, de foi et tout ce que nous pourrions dire, expliquer les choses pour que tous soient instruits, enseignés et que tous aient la connaissance pour pouvoir rendre le culte à Dieu de manière agréable. La piété, c'est la connaissance des choses d'en haut, de Dieu, qui par le Saint-Esprit va produire en moi ce désir, cette dévotion pour la pratique. Alors, le premier critère pour que le culte que je suis venu rendre à Dieu ce matin soit agréable, c'est justement ce mot avec crainte. Piété, mais avec crainte. La crainte de l'Éternel, nous le savons, c'est ce sentiment de respect que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'enfant de Dieu, qui est tout à fait différent de la façon que nous fonctionnions avant de connaître le Seigneur. Mais dès lors que j'ai connu Dieu, dès lors qu'il s'est révélé à moi, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce respect, cette crainte respectueuse qui va un peu être le moyen de définir non seulement mon entrée dans la vie nouvelle, mais ma persévérance aussi dans cette vie nouvelle de la part de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque la crainte de Dieu est dans le cœur de l'enfant de Dieu, on ne peut pas faire les choses comme on le faisait auparavant. C'est un peu ce qui se rapproche de ce que le Saint-Esprit va définir dans la bouche de l'apôtre Paul lorsque nous lisons le texte de Tite, le chapitre 2 et au verset 11, où il dit que la grâce de Dieu dont nous sommes l'objet, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Cette manifestation a mené la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix. Et aussitôt après qu'il ait mentionné ce que fait la grâce de Dieu dans la révélation et le salut, eh bien, voici qu'il place, après cela, il dit, la grâce de Dieu, elle vous enseigne à renoncer à l'impiété pour marcher dans le présent siècle selon la piété et la justice. Et aussitôt après, voici qu'il nous introduit dans le futur en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire comme s'il montre qu'à partir du moment que nous sommes entrés dans le salut, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour amener la nouvelle naissance, en même temps, il va faire un travail qui va nous amener à renoncer, le renoncement à ce que nous faisions auparavant pour vivre dans le présent siècle selon la piété et la justice. La piété, l'amour pour les choses d'en haut, produisant en moi par le Saint-Esprit un désir de pratiquer, renoncer à l'impiété pour vivre dans le présent siècle selon la justice et la sainteté. Et puis nous propulsons dans le futur en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, ce sentiment respectueux va produire aussi en nous quelque chose qui est important, qui nous est montré. Tiens, dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, au verset 10, Proverbes 8, 10. Non, pas 8, 10. 9, 10. Proverbes 9, 10. Le commencement de la sagesse, dites avec moi, c'est la crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas tout. C'est la science, la connaissance pour les saints, mais c'est aussi l'intelligence. Alors, à partir du moment que j'ai dans mon cœur la crainte de Dieu, le Saint-Esprit va mener autant à la connaissance, mais aussi il va travailler pour ouvrir mon intelligence aux choses divines. Puis, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, dans le Proverbe, le chapitre 8, juste à côté, verset 12. C'est une expression de la sagesse, car tout le chapitre 8 des Proverbes constitue ce que nous pourrions appeler les louanges de la sagesse. 8-12. Moi, la sagesse, elle s'exprime, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède pour science, je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je l'avais dit, frère et sœur, que ce matin, quand je vais rendre le culte à mon Dieu, certes, je comprends ce qu'est la piété, mais le Saint-Esprit dans mon cœur en action ne peut pas me laisser avoir des sentiments de haine dans le cœur. Car comment je peux venir devant mon Dieu, dire Seigneur, je t'aime, et puis le frère qui est à côté de moi, la sœur, j'ai de mauvais sentiments à son égard. Non. Quand je crains Dieu, le Saint-Esprit me donne aussi autant dans la sagesse que la réflexion. Et cette sagesse et cette réflexion m'amènent en même temps au discernement. Donc c'est important, mes bien-aimés, que vous voyez simplement, en partie de la crainte de Dieu dans mon cœur pour venir lui rendre le culte, tout ce qui va découler. Ça veut dire que je ne peux rien créer. Mais le Saint-Esprit peut créer les choses en moi pour que je puisse remplir des conditions. Le premier critère pour que mon culte ce matin, pas mon culte, le culte que je suis venu rendre à Dieu lui soit agréable, c'est que dans mon cœur, il y ait la crainte de l'Éternel. As-tu ce matin dans ton cœur la crainte de Dieu, mon frère, ma sœur? Est-ce que dans ton cœur ce matin, la crainte est une réalité spirituelle que le Saint-Esprit a développée? Pas la crainte des hommes, hein? Car la crainte des hommes, c'est pas ça. La crainte des hommes tend un piège à la vie précieuse. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Cela m'amène au discernement et cela pour demeure la réflexion. Vous avez dit qu'avant d'agir, je réfléchis. Et quand cette réflexion est mon partage, le Saint-Esprit va m'éclairer quant à ce que Dieu attend de moi, ce qu'il faut que je fasse, et comment je dois le faire. Non pas pour que je puisse être vu, mais pour que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Alors, premier critère, le culte. Je suis venu rendre à mon Dieu ce matin pour qu'il y soit agréable. Je dois avoir dans le cœur la crainte de mon Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur ce matin, je ne vais pas dire que le culte ne sera pas agréable. Mais demande à Jésus-Christ, demande à Dieu, Seigneur, développe en moi la crainte de ton nom. Écoutez, le psalmiste a demandé à Dieu, hein? Oui, crée-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, autant de prières qu'il a adressées, mais ailleurs, il demande à Dieu de développer en lui la crainte de son nom. Que la crainte de ton nom soit dans mon cœur éternel pour que je puisse mieux te servir de manière qui te soit agréable. Deuxième critère. Vous noterez aussi dans la même tranche de pensée le psaume 111, verset 10. C'est la même parole. Le second critère, mes bien-aimés, pour que le culte ce matin soit agréable à Dieu, que je suis venu lui rendre, se trouve dans le livre, l'épître aux Romains, pardon. Et au chapitre 12, verset 1er, nous allons trouver le deuxième critère. Le premier critère, c'est un culte, le culte avec crainte, la crainte de l'Éternel dans le cœur. Mais le second est aussi important à considérer, puisque si cela nous est révélé dans l'Écriture, c'est pas simplement pour que nous puissions bien savoir, connaître. Non, c'est simplement pour que nous puissions, avec la connaissance, passer à la pratique et remplir les conditions nécessaires. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, dites avec moi, un culte hein, raisonnable. Alors, pasteur Gentil, quelle différence y a-t-il entre le culte agréable et le culte raisonnable? Eh bien, laissez-moi vous dire que la différence, elle est simplement à mentionner dans l'expression, dans l'énoncé. Car, dans la réalité, le culte agréable à Dieu, c'est le culte qui, pour moi, est raisonnable. Là, c'est moi qui suis concerné. Un culte raisonnable. Raisonnable, raison. Qu'est-ce que la raison? N'est-ce pas l'ensemble de mes capacités psychiques? Ben oui. Ce qui vient de mon esprit, ce qui est de l'ensemble de mes aptitudes. Non? Oui, raisonnable, raison, entendement, esprit. Et dans ce cadre-là, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que derrière ce mot raison, raisonnable, la raison, il y a à définir trois mots importants. Le premier, c'est la connaissance, connaître. Deuxièmement, avec la connaissance, connaître, il y a le verbe agir. Je ne peux agir dans ce cadre-là que si je connais. Connaissance, connaître, agir pour l'action, et puis avec la connaissance et l'action, il y a entre les deux juger. Connaître. Juger et agir. Et dans tout cela, mes bien-aimés, on a besoin d'une chose particulièrement importante que la Bible définit comme étant l'intelligence renouvelée. Est-ce que moi, je peux renouveler mon intelligence personnellement? Ah, je peux faire toutes les gymnastiques que je veux, mais c'est pas moi qui renouvelle mon intelligence. J'en suis incapable. Mais il y a quelqu'un en moi qui est capable de le faire. Ou Dieu peut le faire en moi par le Saint-Esprit qui l'a fait habiter en moi. Encore faut-il que je lui demande, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Car souvent nous avons de l'intelligence pour les choses de la terre. Nous avons de l'intelligence pour entreprendre, pour investir, pour créer. Ça c'est bien. Mais c'est une intelligence tout à fait humaine. Mais pour les choses d'en haut, pour rendre le culte à Dieu, j'ai besoin que le Saint-Esprit, pour que le culte que je dois rendre à Dieu soit un culte raisonnable pour moi, agréable pour Dieu, que mon intelligence soit renouvelée. Le renouvellement de mon intelligence. Ça veut dire la connaissance, le jugement et l'action. Le jugement doit être exercé. par l'usage. Frères et sœurs en Christ, est-ce que ce matin, ce que je vous dis est compréhensible pour vous, accessible pour vous, et vous êtes capable de le recevoir? Je vous pose la question. Oui, pasteur gentil. En tout cas, moi, je fais de mon mieux. Je vous dis ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Car fort souvent, nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons, nous allons apporter le culte. Nous allons au culte. Mais dans la réalité, nous avons lu, notre Dieu, nous lui rendons un culte. Et ça veut dire que derrière ce mot « rendre », il y a l'idée de ce que nous sommes des débiteurs. Nous lui devons l'adoration. C'est pas quelque chose que nous faisons par habitude, mais quelque chose qui est, eh bien, d'ordre spirituel et qui est compris dans le plan, dans le dessein de Dieu, dans le développement qu'il veut pour moi, son enfant. Le développement qu'il veut pour moi, puisque Jésus-Christ a fait de moi un sacrificateur pour Dieu le Père. Et Dieu m'a donné à posséder des critères véritables qui définissent que je suis un vrai adorateur. Donc, du côté de Dieu, du côté de Jésus, tout est réuni. Mais encore faut-il que moi, je comprends ces choses, je les reçoive, je les accepte, qu'ils s'installent en moi, et que quand je suis conduit, comme ce matin, à rendre le culte à mon Dieu, mais le Saint-Esprit les mette en évidence. Non pas pour que le pasteur voie que je suis supraspirituel, mais pour que le Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu regarde, il sonde mon cœur et mes reins, sonde mes pensées, il pèse les intentions de mon cœur, il voit en moi les critères définissant que le culte que je suis venu lui rendre lui sera agréable. Oh, je sais, comme d'habitude, vous êtes toujours concentrés. C'est mieux d'être concentrés. Béni soit Dieu, vous êtes à l'écoute. Parce que votre écoute montre que vous voulez recevoir, comprendre, connaître ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Premier critère, pour que le culte soit agréable, la crainte de Dieu dans mon cœur. Deuxième critère, un culte raisonnable. C'est-à-dire que l'ensemble de mes capacités, et psychique, esprit, entendement, raisonnement, et tout cela, eh bien, sont sous la clarté du Saint-Esprit. Il va me donner par l'intelligence renouvelée, la connaissance, l'action, mais entre les deux, le jugement exercé. Ça veut dire l'intelligence renouvelée avec ce qu'il faut pour que je puisse rendre le culte à mon Dieu de manière qui lui soit agréable. Le troisième critère, mes bien-aimés, va nous amener à regarder. Oh, je sais que vous le connaissez aussi, Philippiens 3.3. Tiens, Philippiens 3.3. Philippiens 3.3. Je veux te suivre. Même verset premier, Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Mise en garde. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. La raison? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la nature humaine ou en la chair. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de notre Dieu. Donc, nous comprenons que le troisième critère, définissant ce matin que le culte que je suis venu rendre à Dieu lui sera agréable, c'est un culte par l'Esprit de notre... Donc c'est spirituel. C'est un culte spirituel. Dans l'Ancien Testament, quand le culte était rendu, il fallait respecter toute une série de pratiques, à tuer la bête, à mener le sac, etc. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est spirituel. Donc le Saint-Esprit en moi va pouvoir amener ce qui est spirituel pour que je rende à Dieu le culte, pas par mon esprit à moi, mais par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Pourquoi? Car si c'est mon esprit à moi, en moi, qui me conduit à rendre le culte à Dieu, obligatoirement, ça va devenir ce qui produit l'énergie de la chair. Écoutez, le Saint-Esprit parle de circoncis. Qu'est-ce qu'un circoncis dans les Juifs? C'est un enfant mâle qui avait subi une intervention par la main de l'homme dans sa chair. Et en circoncisant l'enfant mâle, eh bien, comme faisant partie du peuple de Dieu, des Juifs, ils étaient démarqués des nations. Mais nous, ce matin, on n'est pas circoncis dans la chair, on est circoncis de cœur. La circoncision de Christ, la circoncision du cœur. Vous avez dit, c'est pas la main de l'homme qui fait cela, mais c'est la main de Dieu dans mon cœur. Et étant circoncis, alors à ce moment-là, le circoncis spirituel que je suis, je dois rendre à mon Dieu le culte par l'Esprit de mon Dieu qui habite en moi. Et quand je lis dans Romains 12, verset 1er, que je dois apporter à Dieu mon corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de ma part un culte raisonnable, Seigneur, ce matin, je t'offre mon corps, je m'offre à toi. Ça veut dire, en faisant cela, je vais m'identifier avec le Christ Jésus dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection, pour que l'énergie de ma chair soit crucifiée avec lui dans sa mort expiatoire, et que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, eh bien moi aussi je vais vivre maintenant en Christ, non pas par l'énergie physique, mais le travail spirituel. Et plus ce travail est fait en moi, mieux je pourrai rendre à mon Dieu un culte qui lui soit autant agréable pour lui, raisonnable pour moi, mais aussi par l'Esprit de mon Dieu. D'où l'importance de la connaissance. Car quand j'ai la connaissance, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour... Écoutez, dans le livre du Lévitique, il y a les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. On ne sait pas comment. Ils ont pris un encensoir et ils ont mis du feu pour aller offrir du parfum à Dieu. La Bible nous dit qu'un feu est sorti devant l'Éternel et les a consumés. Il ne fallait pas qu'Aaron pleure. Hein? Pourquoi? Derrière cela, il y a l'image de tout culte produit par la volonté de l'homme avec l'énergie de la chair, mais que Dieu n'agrée pas. Dieu agrée tout ce qui est du Saint-Esprit en nous, de la connaissance de sa parole, et qui permet que sa bénédiction accompagne le culte que nous sommes venus lui rendre et dans lequel il prend un vrai plaisir. Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, vous savez que dans les églises, il y a des gens qui viennent rendre le culte, qui rendent le culte à Dieu, mais ils viennent dans le désir de se faire entendre, de se faire voir, de paraître meilleur que les autres, supraspirituels, etc. Tout ce que vous voulez. Mais ils peuvent tromper le pasteur, même tromper les anciens, tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Quand Dieu sonde mon cœur ce matin, il doit trouver en moi des sentiments d'humilité qui découlent de ma connaissance de ce qu'il est, de ce que Jésus est et de ce que le Saint-Esprit fait en moi pour que je puisse comprendre que véritablement en moi, excusez-moi, je vais encore revenir sur quelque chose qui est habituel, en moi, il n'y a rien de bon. Mais la grâce qui m'a été accordée, c'est que celui en qui tout est bon, il a mis en moi son esprit. Et c'est par son esprit que je peux lui rendre le culte ce matin. Gloire à Dieu. Ce que je vous expliquais là concernant Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, cela se trouve dans le Lévitique, au chapitre 10, verset 1 à 2.
Notez, vous allez le lire chez vous.
Et puis voici le dernier critère. Dernier critère, donc un culte par l'Esprit de notre Dieu, ce qui signifie conduit, dirigé et inspiré par le Saint-Esprit. Et puis le dernier critère se trouve toujours dans Hébreux le chapitre 10, Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, au verset 22. Oh, même verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, quoi ? Une libre entrée dans le sanctuaire, ce qui était tout à fait différent de l'Ancien Testament. Ce testament, il fallait respecter des choses établies par Moïse et respecter chaque détail de manière scrupuleuse. Autel des holocaustes, où la bête devait être sacrifiée après pénétration dans le lieu saint, régler ce qu'il fallait et une fois par an, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint et amener le sang de la bête et remplir toutes les conditions avec l'aspersion pour que, après qu'il eût fait ce qui était demandé, alors il paraisse dans le parvis où le peuple attendait sa sortie. Et si tout n'était pas respecté, le souverain sacrificateur, lui, eh bien, malheureusement, il était tué sur place. Donc, il y a l'idée de ce que l'apôtre Jacques nous dit, « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui, le grand jour des expiations, faisait cela une fois par an. Il quittait le parvis pour aller vers le lieu très saint. Mais Dieu s'approchera de vous, Dieu venait au travers de lui en quittant le lieu très saint pour paraître au travers du souverain sacrificateur qui avait tout respecté pour que le peuple maintenant glorifie Dieu qui avait couvert ses péchés. Je dis bien qu'il avait couvert ses péchés, hein, quand les péchés étaient couverts, mais l'année d'après, il fallait recommencer les mêmes pratiques. Tandis qu'en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus, une fois pour toutes. Il a amené les choses à la perfection, une fois pour toutes. Donc, ce matin, frères et sœurs en Christ, je voudrais avoir la connaissance qu'en travers de Jésus-Christ, les choses ont été amenées à la perfection, une fois pour toutes. Donc, je me soumets, je crois, j'adhère, et je fais. Regardez avec moi, Hébreux, le chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Voici maintenant l'approche. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et ce qui a retenu mon attention dans ce culte, le dernier critère, c'est ce que nous venons de lire, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Comment je peux rendre le culte à Dieu avec une mauvaise conscience? Écoutez, une mauvaise conscience, c'est une conscience qui m'accuse. C'est une conscience qui m'accuse et qui m'enlève ma paix. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'incruster dans ma conscience et m'accuser. Et puis, il y a un qu'on appelle l'accusateur des frères. Il est champion pour manier l'accusation en prenant mes erreurs, mes faiblesses, et en les amplifiant de telle manière que ça devient un blocage à l'intérieur de moi. Une conscience souillée. C'est une conscience qui accuse Et quand la conscience souillée m'accuse, je suis bloqué. Alors, pasteur, comment je peux rendre à Dieu un culte agréable, raisonnable, par l'esprit, avec une conscience qui m'accuse? Eh bien, laisse-moi te dire, si tu permets que je te tutoie, laisse-moi te dire que Dieu y a pensé avant toi. Et la réponse, ça se trouve dans l'œuvre de Jésus à la croix. Non seulement dans l'œuvre de Jésus à la croix, mais aussi dans la connaissance de la préciosité du sang qu'il a versé à la croix du calvaire. Et à ce titre-là, mes frères et mes sœurs, on n'est jamais assez instruit. Je vais vous donner la référence. Et que le Saint-Esprit permette que chacun d'entre nous, non seulement ce matin, mais d'une manière définitive, nous en fassions chacun une application personnelle. Pour te débarrasser de toute accusation dans laquelle l'ennemi voudrait nous maintenir, nous introduire et nous maintenir. Car c'est là le travail de Satan. Nous introduire dans l'accusation, résultat de son travail, mais nous y maintenir en nous faisant minimiser autant la réalité de l'Écriture que l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, le chapitre 9, va nous donner la réponse. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, dites avec moi, des biens à venir. Cela veut dire qu'il nourrit mon espérance. Les biens à venir, c'est ceux dans lesquels le Saint-Esprit m'a introduit dans l'espérance, les biens à venir. Et quels biens à venir pour moi? Eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré pour une fois pour toutes, où? Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, le sang des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu, dites avec moi, une rédemption, c'est déjà fait, un pardon éternel. Rédemption, rachat par le paiement d'un prix, une fois pour toutes, Jésus l'a fait. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sainte d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, ce qui se faisait dans l'ancienne alliance sanctifiée procure la pureté de la chair, combien plus que le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, dites avec moi, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez qui? Le Dieu vivant est vrai, c'est-à-dire lui rendre le culte. On s'approche. Le corps lavé d'une eau pure, action de la parole de Dieu, qui me lave des souillures que j'ai contractées dans la semaine, dans ma marche. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Ça, je le lis. Mais après, il faut que ce que j'ai lu dans Hébreux 10 soit complété par Hébreux 9 pour me montrer l'efficacité du sang de Jésus qui purifie ma conscience. Quand je lis les œuvres mortes, c'est quoi les œuvres mortes? Œuvres mortes, c'est œuvres qui ne sont pas vivantes. Mais c'est exactement le travail du péché. C'est ce que le péché laisse en moi. Produit en moi, fait en moi. Mais le sang de Jésus purifie ma conscience. Une fois que la conscience est purifiée, toute accusation disparaît. C'est comme si, dans la réalité, je n'avais jamais péché. Parce que je dis, qu'est-ce que vous dites là? Mais je ne dis que ce qui est écrit. Une fois que le sang de Christ purifie ma conscience, l'accusation s'arrête. Toutes les conséquences sont détruites, réduites à rien. Alors je remplis les conditions pour que le culte que je suis venu rendre à Dieu soit agréable. Premier critère, la crainte de Dieu dans mon cœur. Deuxième critère, culte raisonnable. L'ensemble de mes capacités, mon entendement, d'où va découler mon intelligence, renouvelée par la vie de l'Esprit en moi. Troisième critère, un culte par l'Esprit de mon Dieu. Ce n'est pas mon énergie à moi, c'est le travail du Saint-Esprit à moi. Et quatrième critère, la purification importante de ma conscience pour que je sois dégagé de toute culpabilité, pour que quand j'ouvre ma bouche, Dieu agrée ce que je suis en train de lui apporter, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Par lui ! Hébreux 13, verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Mais enfin, il faut qu'au préalable, les premiers éléments, je les possède pour que je puisse faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous a donné, par sa grâce, autant la connaissance nécessaire, la clarté qui l'accompagne, la lumière. Alors maintenant, on peut aller plus loin. Alléluia. Bénissons-le et disons-lui ce matin tout ce qu'il y a dans nos cœurs comme reconnaissance. Prions le Seigneur.